Bonjour, c'est Radio Libertaire, Symbiose, une nouvelle émission, c'est la première. Nous allons parler dans cette émission de différentes problématiques liées aujourd'hui au droit d'auteur et à la loi DAFSI. Et nous avons pour parler de ça deux invités, donc Christophe Espern et Tanguy Morlier. Donc la loi DAFSI, vous la connaissez probablement pas, ou peut-être un petit peu. C'est une loi qui vise en fait à réglementer tout ce qui est copie de musique et ce genre de choses, en définissant ce qui est légal, n'est pas légal, ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, et en autorisant un certain nombre de mesures techniques de protection, comme on les appelle. Et on verra ça, tout ça dans le détail. Et donc on verra ça. Le côté technique, comment dire également, toute la façon dont cette loi est arrivée, parce que c'était assez rocambolesque, et c'est assez révélateur des intérêts divers et variés qu'il y a sur le sujet. Symbiose de retour. Donc le morceau que nous avons entendu est un morceau d'un groupe qui s'appelle Truculent. Le morceau s'appelle Pinocchio et c'est de la musique libre. On en parlera une autre fois. Donc aujourd'hui on parle de la DAFSI avec Christophe Espern et Tanguy Morlier. Donc on va commencer par leur demander de se présenter. Donc, Christophe, est-ce que tu peux nous dire ?
Bonjour, je suis un des cofondateurs du collectif EUCD.info, qui est un collectif qui a été créé par la Fondation pour le logiciel libre. Afin justement d'informer autour de cette loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, il y a maintenant 4 ans, puisque c'était fin 2002, même un peu plus, qu'on s'était créé pour informer, et on a fait des propositions alternatives à ce qui était proposé par le gouvernement, et on a proposé des amendements à certains parlementaires qui les ont repris. Donc voilà un petit peu qui je suis et pourquoi je suis là.
Ok. Donc Tanguy Morlier, est-ce que tu nous parlais de toi un petit
peu ? Oui, bien sûr. Je suis membre de Stop DRM, donc c'est un collectif de consommateurs de produits culturels qui se sont réunis pendant l'étude de la DAFSI. Nous, on n'a pas fait le travail au niveau de l'Europe comme Christophe l'a fait. Nous, on est arrivés comme des citoyens s'informant sur cette loi. Et on a trouvé tellement ahurissant que le gouvernement veuille à tout prix pousser les DRM et les protéger tant bien que mal. Et du coup, on essayait de monter des actions afin de sensibiliser les citoyens et les consommateurs de biens numériques et de biens culturels en général du danger que représentaient les DRM pour la culture et puis pour les citoyens, pour un projet de société.
D'accord. Alors, tu as parlé de DRM. Tout à l'heure, j'ai parlé de mesures techniques de protection.
C'est vrai qu'on utilise plusieurs termes. On peut aussi utiliser mesure de contournement d'usage.
Non, dispositif de contrôle d'usage.
De contrôle d'usage, pardon. Tout ça représente à peu près la même chose. C'est en gros des verrous qu'on appose à la musique, qu'on appose au film, à peu près tous les biens culturels, même il y a des gens qui voudraient l'apposer au livre, et qui vont empêcher les consommateurs de jouir totalement de leur produit, du produit culturel qu'ils achètent. Donc, d'accord. Le cas typique, c'est on achète un CD d'EMI à la FNAC et on essaie de le lire sur son autoradio et ça ne marche pas. On essaie de le lire sur son ordinateur et ça ne marche pas non plus. On ne peut pas le convertir vers un baladeur. Ou tout simplement un DVD, lorsqu'on lit un DVD, on est obligé toujours de regarder la même publicité au début et on ne peut absolument pas la passer, cette publicité. C'est-à-dire que vous regardez le film en 4 jours différents. Et vous êtes obligé de revoir la même publicité au début du DVD. Et ça, c'est les DRM qui nous empêchent de passer la publicité ou de convertir de la musique vers un baladeur numérique, par
d'accord.
exemple.
Donc les DRM, c'est quelque chose qui a été mis dans la loi, selon cette loi d'AFSI dont on va parler aujourd'hui. Donc ces systèmes de contrôle instaurés par la loi, légalisés, etc. Est-ce que, Christophe, tu peux expliquer comment c'est arrivé, d'où vient cette loi, pourquoi, quel est le problème et d'où ça vient?
Ça date en fait du milieu des années 80. Les gens du cinéma américain se sont rendus compte qu'avec la démocratisation du magnétoscope, la copie allait devenir possible pour tout à chacun chez lui. Et que les gens allaient s'échanger des copies à regarder. Et ils ont commencé à paniquer, à se dire ça va détruire le cinéma, ce qui n'a pas eu lieu d'ailleurs. On peut voir, et ça permet de faire un peu de prospective aussi sur ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas eu lieu. Et donc ils ont commencé à réfléchir à lutter contre la technique par la technique. Donc lutter contre la technique de copie domestique par des techniques anti-copie. Alors, ils se sont très rapidement rendus compte que tout ce que l'homme construit, l'homme peut aussi le détruire. Donc, tout ce que l'homme érige en rempart, quelqu'un peut le contourner. Et ils ont commencé à faire du lobbying auprès du gouvernement américain pour voir protéger leur dispositif de contrôle anti-copie. Donc, ils voulaient une loi qui protège les dispositifs qui empêchaient la copie. Et ils ont pas vraiment réussi à le faire passer au niveau américain. Il y a eu une grosse contestation au niveau national aux États-Unis quand ils ont voulu faire passer ces lois en fait qui posent de vrais problèmes pour qu'on va détailler après, mais le champ des problèmes que représente ce type de loi est absolument énorme, puisque ça va du fait que le domaine public est de nouveau propriétisé, la pérennité des données n'est pas assurée, enfin il y a beaucoup de problèmes qu'on va peut-être passer en revue. Et donc ils sont remontés au niveau international, un petit peu comme l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, et ils sont montés à l'OMPI, donc qui est l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, et ils ont fait rédiger des traités internationaux que l'Europe a signés. Donc comme l'Europe l'a signé, elle a fait une directive européenne, et la directive européenne ensuite nous a arrivé dessus au niveau national en France, et il a fallu qu'on rédige cette loi pour pouvoir se mettre en conformité avec les obligations internationales et européennes. Donc ça remonte de très loin, ça vient du milieu des années 80 et on en arrive en 2006 avec cette loi qui est totalement surréaliste, comme on va le voir sûrement.
D'accord. Donc la loi d'AFSI, avant d'être votée, enfin ça s'est présenté comment concrètement, quand ça arrive au Parlement, etc., qu'est-ce qu'il y avait dedans, en gros, et comment elle a été présentée aux députés, enfin déjà comment elle a été rédigée, par qui, comment elle a été présentée aux députés.
Bah, déjà, ce qu'il faut parler, c'est l'état d'urgence qu'a mis le gouvernement, parce qu'en fait, ils ont été très très longs. Je crois que ça arrivait sur le bureau du ministre de la Culture dans les années, enfin au milieu des années 90.
En 2000. En fait, le ministre, c'était Ayagon à l'époque de la Culture, a déposé le projet de loi fin 2003 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et le texte a été examiné en décembre 2005. Donc le texte a traîné un certain temps. Et effectivement, le Premier ministre Raffarin, quand il a quitté le gouvernement après l'échec de l'adoption de la Constitution, avant de partir, a déclaré l'urgence sur le texte. Alors, pour expliquer ce que c'est l'urgence, normalement, quand il y a un projet de loi, l'Assemblée l'examine, le Sénat l'examine, et si les textes sont pas exactement les mêmes, ça revient à l'Assemblée, et il y a ce qu'on appelle donc des navettes parlementaires, Sénat, Assemblée, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. En urgence, il y a qu'une seule lecture. Donc le débat est tronqué et on a vu que ça posait des grands problèmes. Donc ça, c'est le premier point, effectivement.
Donc la copie, la musique ou ce genre de choses, c'est considéré par le gouvernement comme une question de vie ou de mort, en quelque sorte.
Oui, enfin, c'est parce qu'ils s'étaient suffisamment mal organisés pour que l'Europe leur mette la pression. Oui. Et comme ils savaient que c'était quelque chose d'un peu dangereux glissant, ils se sont dit, bon, allez, on essaie de régler ça très rapidement. On fait ça en catimini. Et il faut savoir que le débat à l'Assemblée nationale, le premier débat à l'Assemblée nationale, a été planifié pour la dernière période, juste avant les vacances de Noël.
Et on en entend le 22 décembre.
Donc tard le soir, en plus, je crois.
Tard le soir. Et c'est pour ça que l'explosion médiatique a eu lieu le 23 décembre, enfin la veille de Noël. Et ça a surpris tout le monde. Mais parce que les gens de l'Internet avaient vu les choses arriver. Avec EUCD, avec EUCD.info, avaient réussi à nous informer, à nous alerter là-dessus. Et tout d'un coup, ça a explosé. Mmh. Ils voulaient passer ça en catimini. Ils pensaient que la solution, c'était de le faire dans l'urgence. On fait un petit truc vite fait, une adaptation, où on est hyper répressif et puis personne n'y verra rien, comme le reste d'autres lois qui ont été votées. Et puis en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça.
Ce qu'il faut, là, on va sûrement détailler le contenu de la loi telle qu'elle est actuellement, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand elle est arrivée devant le Parlement, elle prévoyait 3 ans, jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour le fait de lire un DVD avec un logiciel libre. Donc c'était aussi, alors c'est de faire une copie d'un CD pour le convertir vers un baladeur MP3, pareil, jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. C'est ça qui a été proposé aux parlementaires en décembre. Et comme il y avait eu, nous on avait fait tout un travail d'information, on n'est pas les seuls, il y avait aussi les associations de consommateurs, il y avait des sociétés qui représentent des artistes, les sociétés de gestion collective d'artistes aussi qui avaient fait un travail. Et donc ce qui s'est passé, et les internautes eux-mêmes s'étaient saisis du sujet, nous on avait lancé une pétition, on a eu 180 000 signatures. Et donc les parlementaires avaient été informés, et le gouvernement lui pensait passer, comme il passe toujours, ses projets de loi, en fait il les pose, la majorité les vote en bloc, et puis c'est adopté. Et là ce qui s'est passé, c'est que les parlementaires, ils se sont rebellés. C'était un peu le chat n'est pas là et souris danse, quoi.
Donc le soir du 22 décembre, il y a combien de députés à peu près dans l'Assemblée ce soir-là?
Je sais pas, ils étaient peut-être 20.
Ouais, voilà. Mais il faut savoir que c'est assez habituel. Hein. Enfin, sur un sujet technique comme ça, les députés, ils sont pas tous informés. Donc il faut mieux qu'il y ait 20 députés qui soient très bien informés et qui le débat était plutôt de bonne qualité à l'Assemblée nationale.
J'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de public à l'Assemblée qui s'était fait inviter, etc.
Voilà, il y avait beaucoup de public, il y avait énormément d'internautes et ça aussi, ça a été une grande révolution à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les députés se sont sentis regardés alors que d'habitude ils travaillaient en catimini. Mais enfin, il n'y a rien de honteux à ce qu'il y ait seulement 20 députés. Il faut mieux que ce soit 20 députés de qualité que 60 ou que 500 qui votent en bloc tout.
En effet, parce qu'on a vu ce soir-là qu'il y avait peu de députés, mais les choses ne sont pas tout à fait passées comme prévu. Et on va écouter un petit morceau qui s'appelle John Wayne et on en reparlera après. John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. The
There's nothing like universal truth, Sophia. Look at me, I get distracted. I don't consider myself a man of the world, and I'm not moving to America. No, we had a dream. No, I'm not listening to you anymore. No, yes, I am singing this song for you. Why do you keep moving towards the door? We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. John Wayne and we are never going to die. Focus on the subject, focus. I got caught in your thousand job stare, but there's nobody there, there's nobody there. Do you need my help? Do you need my help? Insert a hilarious metaphor here. You kill me like a girl. He thinks my behavior is not fitting and says maybe you are not from this world. We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. We are John Wayne and we are never going to die. I find myself not believing that I've actually shot you down. It is not like in the movies, it's not like on TV. I realize I'm empty but full of incompetency.
Symbiose, de retour, donc sur Radio Libertaire 89.4. Nous parlons aujourd'hui avec Christophe Espern et Tanguy Morlier de la loi d'Afsi. Donc on en était resté au soir du 22 décembre. Le Père Noël ne s'est pas présenté, ou peut-être que si, on ne sait pas trop. À l'Assemblée nationale doit se voter rapidement un texte de loi, ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais sont présents, en plus des députés, une foule assez importante de citoyens. Et des associations, et voilà. Et donc, c'est le soir où cette loi doit être votée. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement,
Christophe? Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que donc le gouvernement est arrivé avec son texte, et quelques jours avant, enfin la semaine d'avant, il a commencé à percevoir qu'il y avait une opposition assez forte, qu'il y avait des députés qui avaient été sensibilisés à la question, et que lui défendait les positions des producteurs de disques et de films, point. Et avec, il soutenait des positions des grands éditeurs de logiciels propriétaires comme Microsoft, etc. Et donc lui, il défendait de la multinationale. Et en face, il y avait un front, qui était un front d'artistes consommateurs qui avait donc informé les députés. Donc le gouvernement, pendant la semaine d'avant, essaye d'aller voir un petit peu le ministère de la Culture de certains députés, UMP, de son camp, et puis il essaye de voir avec eux s'il peut pas s'arranger à garder le texte tel qu'il est et mettre 2-3 mesures cosmétiques. Et ça marche pas. Et quand ils arrivent donc en séance, il y avait une proposition alternative qui était portée par un collectif d'associations de consommateurs et de représentants d'artistes qui s'appelait l'Alliance Publique Artiste et qui proposait une licence globale. Donc la licence globale, c'est le concept totalement opposé au DRM, aux mesures techniques et à tout ce qui est toute la répression qui va avec. La licence globale, c'est de dire les gens payent un forfait de 5-10 euros, après il faut fixer le prix, auprès de leurs fournisseurs d'accès, et ils peuvent échanger de la musique. Donc on n'est pas dans le contrôle de copie, l'anticopie, on est dans on autorise la copie Et on va au-delà de ce qui est autorisé par la loi actuellement, qui est la copie privée, on autorise aussi la copie à destination des autres et l'échange de fichiers. Et donc, il y avait cette proposition-là qui était portée par des députés PS et des députés UMP. Et en fait, elle a été proposée au vote. Donc, c'était le 21 décembre que la proposition de licence globale a été proposée. Et le ministre était quasiment convaincu que ça ne passerait pas, voilà, et ça passe. Et donc toute l'architecture du texte, c'était l'article premier, c'était le premier article en examen du texte. La veille, qui était l'ouverture des débats, il y avait des députés UMP, UDF, PS, PCF, Verts.
Qui étaient quelques noms éventuellement.
Ah oui, il y avait Martine Billard pour les Verts qui a porté vraiment le fer sur ce projet de loi en disant c'est scandaleux, etc. Il y avait Frédéric Dutoit donc pour le PCF, pour le PS il y avait Patrick Bloch, Christian Paul, Didier Mathus. Qui était présent. Pour l'UMP, il y a eu Bernard Carayon, Richard Cazenave, Christine Boutin, Alain Suguenot, qui ont porté des dispositions favorables, en sachant que il y avait Alain Suguenot et Christine Boutin qui défendaient la licence globale, qui portaient les mêmes amendements que Patrick Bloch et Christian Paul, qui sont PS. Donc il y avait une sorte de front d'alliance transpartisane à l'Assemblée, et donc ils ont voté la licence globale, et ça a complètement plomber tout l'examen du texte, puisque c'était exactement le contraire de ce que souhaitait le gouvernement.
Et ce qui était assez drôle, c'est de voir Boutin, qu'on connaît pour ses positions, et Bloch, qui est le fer de lance du Pax. Et ces deux hommes politiques, enfin hommes et femmes politiques, se sont réunis, se sont retrouvés autour d'un texte sur la culture et l'Internet. Donc ça a été assez hallucinant de voir ça. Ça a surpris tout le monde, le ministre, les journalistes, enfin vraiment tout le monde. C'était le grand tremblement de terre.
Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques semaines plus tard, j'ai rencontré un journaliste qui travaille à Bruxelles, donc au niveau européen, et il m'a dit il y a des lobbyistes de très grosses entreprises qui œuvrent donc à Bruxelles, qui sont allés le voir, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe en France là? Parce que vous avez quand même des lobbies, les sociétés de gestion collective comme la SACEM, les producteurs.
Les lobbies culturels, on est vraiment très très fort.
Énorme.
On dit que la France n'est pas très fort en lobby, mais le lobby culturel est assez bien structuré.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ça se fait qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient? Et qu'au contraire, ça allait dans le sens exactement inverse. Donc il y a vraiment eu un effet de surprise en décembre. Et surtout, il y a eu un vrai débat. C'est-à-dire que les députés qui ont pris la parole en hémicycle, donc pendant les débats, connaissaient leur sujet au début. Après, on a vu plein d'autres venir faire le nombre qui ne connaissaient pas forcément. Mais il y avait des gens qui avaient travaillé leur dossier, qui ont démonté consciencieusement la loi proposée par le gouvernement, et y compris des députés de la majorité, qui démontaient en fait ce que proposait le ministre de la Culture, mais de façon flagrante devant. Et il y avait des milliers d'internautes qui regardaient les débats, et ça, c'est quelque chose qui était nouveau pour les députés, c'est qu'en fait, il y avait des milliers d'internautes qui les regardaient, et quand il y avait des interruptions de séance, ils rentraient dans leur bureau à l'Assemblée, et ils avaient des dizaines de mails qui soit les félicitaient, soit les
conseillaient même.
Les conseillaient, et des fois qui carrément les agressaient aussi, en disant mais c'est scandaleux ce que vous êtes en train de dire, c'est totalement faux, avec des argumentaires de gens qui pratiquent, qui utilisent Internet, qui ont des CD, des baladeurs, des ordinateurs. Et donc, après, ils étaient carrément cités en séance. Donc, les députés citaient les internautes en séance pour démontrer au ministre qu'il avait tort. Donc, c'était assez intéressant de ce point de vue-là.
D'accord. Et donc, il y a eu le tremblement de terre du passage de la loi. Et là, le ministre a dit, enfin, il était totalement sous le choc et a dit, bon, ben voilà, on arrête, on va passer Noël en famille et on se voit en mars.
D'accord.
Donc... En fait, c'est le Premier ministre qui a vu que son ministre s'était mis dans la merde, faut le dire. Et donc, ils avaient pas le temps, c'était les vacances parlementaires, donc ils ont dit, on arrête, et puis on va reprendre. En fait, le travail à faire pour eux, c'était de remettre tous les députés UMP dans le rang. C'est-à-dire, derrière le projet de loi du ministre, quel qu'il soit.
Pour sauver la face du gouvernement, et la face du ministre aussi, tant qu'à faire.
Ok. Vous avez dit qu'il y avait contre cette loi un collectif de consommateurs, d'utilisateurs, d'auditeurs et d'artistes. On a vu, notamment dans les discours des gens qui défendaient la loi, ils ont toujours mis eux-mêmes en avant les artistes en disant quand on copie de la musique, c'est de l'argent qui ne va pas dans les poches des artistes, etc. Est-ce que vous pouvez aborder un peu la cohérence de la licence globale par rapport au projet de loi, et on ne va pas faire trop longtemps non plus pour expliquer toute la, comment dire, l'économie de la musique, entre guillemets. Mais quelle est la cohérence là-dedans? Et comment se fait-il que certains artistes aient été contre la loi, alors que d'autres, finalement, on verra un peu plus tard, l'ont défendu?
Oui, on peut essayer. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que ni StopDRM, ni EUCD.info ne fait particulièrement... Enfin, on n'a pas franchement d'avis sur la licence globale, parce que nous, on est plutôt du côté des consommateurs que des artistes, alors que c'est plutôt un problème de rémunération d'artistes. Mais on peut essayer de le résumer succinctement. En fait, la licence globale, il faut savoir que là, on est dans une radio, la radio libertaire. Il se trouve que la radio paye une somme d'argent aux sociétés de gestion pour avoir le droit de diffuser la musique. Et après, en fonction de sondages, les sociétés de gestion, redistribuent à qui de droit cette somme d'argent, cette manne d'argent qui a été faite. Donc, on demande aux radios, on demande aux discothèques, on demande également aux bars et aux restaurants. C'est-à-dire que la SACEM va voir tous ces gens-là et leur dit vous diffusez de la musique à travers une radio, vous diffusez de la musique à travers des CD, eh bien, vu que vous satisfaisez certains auditeurs, vous nous donnez une part d'argent. Et donc, ça, grosso modo, c'est le système qui existe à l'heure actuelle. Et l'Alliance publique artiste s'est dit pourquoi pas adapter ça à l'ère de l'Internet, c'est-à-dire de dire, un internaute qui est sur son ordinateur, en quelque sorte, il a une mini-radio, et sa mini-radio, c'est sa radio à un ou deux auditeurs, celui de son foyer. Et donc, on va adapter le système existant à un concept qu'on appellerait la licence globale.
Voilà, mais la licence globale, c'était pas ce qui était visé, c'était pas de couvrir les diffusions dans le foyer, c'était de couvrir les diffusions envers
les téléchargements.
Tous les internautes. C'était pas les téléchargements, c'était vraiment de... le fait de diffuser de la musique sur Internet pour que tout le monde puisse l'obtenir. Parce que pour expliquer rapidement, il y a les producteurs, il y a les auteurs et le compositeur, et puis il y a les artistes-interprètes. Et dans les artistes-interprètes, il y a deux types d'artistes. Il y a ceux comme Johnny Hallyday qu'on connaît et qui sont sur les rondes pochettes. Mmh. Et puis il y a tous les musiciens qui font, par exemple, dans un orchestre symphonique qu'on ne connaît pas et qui font tout l'orchestre, etc. Et donc tous ces gens-là ont des intérêts convergents parfois, divergents parfois. Et actuellement, il y a un mécanisme qui s'appelle la redevance pour copie privée, qui est un mécanisme qui, chaque fois qu'on achète un support vierge ou un baladeur MP3 ou un enregistreur numérique, etc., il y a une somme, il y a une part du prix qui est reversée aux sociétés de gestion collective qui ensuite répartissent qui au producteur, qui à l'auteur, qui
donc
à l'artiste.
On a déjà un système
pour la copie privée.
On a déjà plusieurs systèmes, celui de la copie privée, celui du système des radios et des bars. Donc il y a des choses qui existent réellement.
Voilà.
Et ce qu'ont proposé certains députés, c'est d'adapter ces systèmes-là pour prendre en compte aussi l'ère de l'Internet. Mmh. Alors après, ça se discute, parce que la redevance pour copie privée, il y a des choses qui sont assez discutables, de payer quelques centimes d'euros ou quelques euros sur un support dont on ne va pas servir pour copier des films ou copier la musique.
Et puis sur les iPods, par exemple, c'est des dizaines d'euros.
Oui,
donc
c'est
des gros volumes. Et la question, c'est donc qu'il y a cette perception, et ensuite il y a la redistribution. Alors la redistribution se fait d'une façon qui est, on prend les ventes de disques, et on dit que ce qui est le plus vendu est le plus copié. Alors c'est un postulat qu'on peut éventuellement admettre ou pas, mais ça me semble être, c'est un peu au doigt mouillé. Parce qu'il y a des gens qui sont pas peut-être, par exemple toute la musique underground, etc., qui est peut-être beaucoup plus copié finalement que Johnny Hallyday qui lui est beaucoup vendu. Mais les gens achètent, mais alors qu'il y a tout un réseau en dessous. Bien et sûr. C'est des gens qui n'apparaissent pas, donc qui ne perçoivent pas les revenus. Et les artistes interprètes n'ont pas la même position que les auteurs et les producteurs, pour des raisons juridiques que je n'expliquerai pas. Mais les artistes, eux, ont tout intérêt à ce que se développent des mécanismes comme la licence globale, comme les redevances copie privée, parce qu'ils perçoivent une certaine somme dessus quand même, alors que les producteurs, par exemple, veulent tuer ces mécanismes-là. Pour pouvoir, parce que eux, en fait, par contrat, ils prennent tous les droits des artistes et ils récupèrent tout l'argent. Alors qu'avec un mécanisme comme une licence globale ou une redevance, les artistes sont sûrs de toucher une certaine somme d'argent. Donc ensuite, après, il y avait plein de comment ça se met en œuvre pratiquement. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des fronts où on avait les producteurs et les auteurs-compositeurs qui étaient contre la licence globale et il y avait les artistes. Alors beaucoup d'artistes-interprètes et les musiciens qui étaient pour la licence globale, et les producteurs et les auteurs-compositeurs ont eu cette capacité à aller chercher des gens connus, je pense à Kyo, je pense à Sardou, je pense à Johnny Hallyday, qui ont dit « nous sommes contre la licence globale » et tout le monde a déduit que les artistes étaient contre la licence globale. Alors que, par exemple, la Dami et la Speedy Dame, qui est qui sont les gens justement qui n'apparaissent pas sur les pochettes, c'est aussi des gens de la danse, etc. Eux avaient 24 000, je crois, artistes qui étaient pour la licence globale. Mais ça, on n'en a jamais parlé.
C'est-à-dire qu'il y a eu une pétition, en fait. Il y a la SACEM qui a essayé de lancer une pétition pour essayer de contrer la pétition de UCD.info. Mmh. Et ils ont fait quelques centaines de signatures. Et il a fallu qu'ils passent dans les bureaux de la secrétaire de tel ou tel maison de disque pour qu'elle signe. Parce qu'il n'y avait pas d'engouement là-dessus. Alors, ils ont sorti les gros noms pour masquer le problème qu'ils avaient un peu en interne. Et alors que de l'autre côté, bah, l'aspect d'Idam ou l'Adami, eux, c'est des milliers de personnes, mais ils sont pas très visibles. Voilà. Et donc, un batteur de jazz en comparaison avec Johnny, ben, celui qui veut faire le titre des 20 heures, évidemment, c'est Johnny.
Et les artistes interprètes l'ont dit pour certains. Eddie Mitchell, par exemple, a été interviewé à un moment et il était venu à un lancement d'un site de propagande par le gouvernement pour expliquer sur le projet de loi. Et on lui dit, mais pourquoi vous êtes là? Et il dit, mais c'est parce que ma maison de disques l'a demandé. Et c'était ça. C'était que les producteurs allaient chercher et lui disaient, hey, Coco, si tu veux qu'on continue, eh ben maintenant il faut aller dire que t'es contre la licence globale. Donc le débat sur la licence globale à l'intérieur même des gens qui étaient directement concernés était difficile et ensuite pour le grand public était complètement tronqué puisqu'on ne donnait la parole qu'à... Et pareil, les chaînes de télé avaient aucun intérêt à la licence globale.
Oui.
Donc forcément, elles le présentaient d'une certaine façon, elles privilégiaient certains acteurs, etc. Et il y a eu une couverture média qui était assez déplorable là-dessus.
D'accord. Donc, l'issue de cette discussion et de ce vote est un peu surprise, c'était finalement de dire on arrête là et on recommence à zéro.
Voilà. Mais ça a été aussi toute la déconstruction de ce travail de lobbyiste, parce que, enfin, il y a une anecdote assez rigolote. Il y avait aussi des grands intérêts économiques au sein de l'internet, puisqu'il y avait des portails qui vendent de la musique avec des DRM, et donc il y avait tout intérêt à ce que une loi qui favorise leur business passe, puisque ils imaginaient que ça allait engendrer des mannes financières. Et donc ils se sont dit, ben on va aller sensibiliser les députés. Donc comment ils ont fait? Ben ils ont envoyé des bons d'achat aux députés.
C'est même pas qu'ils ont envoyé, c'était Virginie et la FNAC, et ils ont passé un accord avec le ministre de la Culture. Ils se sont retrouvés à quelques dizaines de mètres de l'hémicycle, là où les députés débattent et votent, dans un espace qui est normalement réservé
aux députés,
aux parlementaires ou aux conseillers du ministre. Et donc, on avait une personne représentant Virginie, une personne représentant la FNAC, devant les ordinateurs, et qui disait aux députés, venez voir, et qui leur donnait des coupons, pour qu'ils puissent ensuite, en rentrant chez eux, le donner à leur gosse ou etc., pour qu'ils puissent aller télécharger de la musique. Donc l'opposition a fait un scandale en disant que ça s'était jamais vu, ce qui est vrai. C'est-à-dire que les lobbies, comme a dit Patrick Bloch, les marchands du temple ont envahi l'Assemblée nationale. Ils sont dans des
espaces...
C'était
quelque chose qui n'était jamais vu. Enfin, de faire une démonstration commerciale au sein de l'Assemblée nationale, où on leur montrait comment dépenser leurs 10 euros de musique DRMisée. Et donc, ils étaient très fiers de leurs idées, mais malheureusement, ça n'allait pas vraiment avec les principes démocratiques.
Voilà, et ce qu'il faut... Donc là, c'était en décembre, mais tout au long du débat, on le verra, le lobbying a été absolument hallucinant et a été dénoncé de façon véhémente par des députés en séance, par des députés à la télé, par des députés à la radio, et ils ont dit, par exemple, Michel Rocard, qui s'est intéressé au dossier alors qu'il est député européen, a regardé un petit peu, par exemple, l'entourage du ministre, son cabinet, qui sont les gens qui composaient ce ministère, et il a dit, en 50 ans de vie politique, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en 50 ans de vie politique, j'ai jamais vu autant de personnes qui ont des intérêts quasiment directs pour certains, voire complètement directs, et j'ai jamais vu autant de personnes qui travaillent sur un projet de loi qui les concerne directement. Et là, on voit maintenant que le gouvernement va changer, quoi qu'il arrive. Les gens se replacent, c'est classique en fin de mandat comme ça, et les gens du cabinet du ministère de la Culture vont dans des entreprises directement intéressées par le texte.
Ils en venaient et ils y retournent.
Voilà.
En fait, ils ont fait leur
petit... Virgin, et qui était conseiller au ministère de la Culture, là, est parti chez Dailymotion. Dailymotion, qui est un site qui passe des accords avec les producteurs. Quelqu'un qui était chargé du financement de l'audiovisuel, donc qui gérait des fonds publics pour financer l'audiovisuel, vient de passer chez M6, en chargé de relations institutionnelles, en lobbyiste. Donc c'est ça, ils font des allers-retours entre le privé et le public, et c'est une petite mafia, en fait, un petit réseau. Et donc nous, on l'avait dénoncé, mais nous, voilà, c'est nous. Mais quand c'est les politiques qui le font eux-mêmes à la télé, quand il y a quelqu'un qui dit, en 50 ans de vie politique, j'ai jamais vu ça, Rocard, il a dû en voir quand même. Hein. Donc c'était vraiment absolument hallucinant. Donc on pourra revenir au fil de...
Oui, mais on peut peut-être parler rapidement du ministre de la Culture, parce qu'on l'a cité un certain nombre de fois, on l'a toujours pas nommé.
Donne-Dieu de Vabre,
et qui s'était illustré, je crois, notamment par, juste avant de rentrer en fonction, une condamnation pour...
Oui.
Enfin, c'était qu'il était en fonction, il était ministre délégué aux affaires européennes. Il avait présenté sa démission parce qu'il était mis en examen pour blanchiment d'argent. Et ensuite, donc, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il faut vérifier, mais il a été condamné à de la prison avec sursis. Et quelques mois plus tard, il a été réintégré... au gouvernement en tant que ministre de la Culture. Voilà, et Eva Joly, qui était juge, qui était donc une juge du pôle financier, qui est maintenant partie dans un pays du Nord en conseiller justice, a dit que qu'en Europe, il n'y avait qu'en France que des choses comme ça pouvaient arriver. Quoi. Donc, et à côté de ça, le ministre a quand même eu une attitude qui était absolument hallucinante, où il disait tout et son contraire. Le matin, il disait quelque chose, le soir, il disait le contraire. Enfin, il maîtrisait pas son texte. Et d'ailleurs, les députés l'ont dit. Il est arrivé, il pensait que son cabinet avait tout géré et tout. Et en fait, non, quoi. C'était absolument pas le cas.
D'accord. Donc, un bon résumé de la situation. Une grosse claque pour un ministre manifestement un petit peu maladroit et pas tout à fait réglo. Et on verra, après le prochain morceau, la suite.
Manifestement délinquant, puisqu'il a un casier.
Oui.
Thank you.
Symbiose, donc on reprend, on a quelques petits soucis avec la musique, quelques légers soucis. Donc c'était Laurent Rochelle, un morceau qui s'appelle Cold Water Buffalo. Donc c'est de la musique libre, vous pouvez librement télécharger sur internet sans être dans l'illégalité. Et vous trouverez toutes les références sur la page de l'émission sur le site de Radio Libertaire. Donc on reprend avec Christophe Espern et Tanguy Morlier donc sur la loi d'AFSI. C'est le deuxième passage à l'Assemblée nationale, puisque le premier s'était pas déroulé comme le ministre aurait souhaité. Donc il considère que le vote n'est pas valable et il en fait un deuxième, donc en mars, trois mois après. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces trois mois et quelle en est l'issue?
Pendant trois mois, donc après décembre, les lobbies se déchaînent dans les couloirs. Le ministère tente de reprendre la main en matière de communication en lançant un site qui s'appelle lestéléchargements.com, qui était un site où il devait expliquer la loi et proposer de la vraie information, parce que UCD Info par exemple faisait d'après eux de la désinformation. Et donc il lance un site où il y a des artistes qui vont expliquer que le téléchargement tue, que c'est du vol, qu'il y a 300 000 personnes qui vont perdre leur emploi si ça continue, etc. Et les internautes étaient invités à participer au débat, et ben ils sont venus participer au débat. Et le site est très rapidement envahi de commentaires, souvent très construits d'ailleurs, où les internautes expliquent, démontent ce qui s'avère être en fait de la propagande. Donc il y a ce côté extérieur, communication vers l'extérieur, multiplication des opérations médiatiques, etc., pour expliquer que la licence globale c'est mal, que les DRM c'est bien, qu'on va trouver un compromis, etc. Et puis après il y a tout le travail qui est fait en lobbying par en dessous, par les lobbies, qui a pour objectif, comme je disais tout à l'heure, de faire rentrer les députés de la majorité qui étaient contre dans le rang et de leur faire voter le texte, etc. Donc pendant plusieurs mois il se passe ça, puis le texte arrive effectivement en débat en mars, vers le 20 mars si je ne m'abuse, où là c'est très tendu, et puis il y a peut-être, tu veux en parler, le retrait effectivement de ce qui a été voté de la licence globale.
Donc, c'était quelque chose de jamais vu, c'est-à-dire que en décembre, l'article premier a été totalement voté par les députés. Mm-hmm. Donc voilà, un article de loi a été voté et le ministre arrive en séance en mars pour reprendre l'étude de ce qui suit de sa loi, parce qu'on a voté l'article premier, il faut continuer à étudier les autres articles, et il dit l'article que vous avez voté, on s'en fiche, on l'enlève. Et il y a le retrait d'un article voté par une institution démocratique. Donc c'est quelque chose de vraiment jamais vu, il me semble, dans une démocratie,
française. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voté la licence globale, mais l'article n'était pas terminé. Et quand le débat a repris en mars, le ministre a dit, il y a un article 1, moi, par voie d'amendement, j'introduis un article 1 bis, je retire l'article 1 sur lequel vous travaillez parce que ça, il me plaît pas ce que vous avez commencé à faire, ça va pas du tout dans le bon sens, et je vais vous demander de voter l'article 1 bis. Et comme ils avaient bien remis tout le monde dans le rang, ils se disaient ça va passer. Et donc ils font ce mouvement-là le premier jour du débat, et ils reçoivent un coup de fil du Conseil constitutionnel qui leur dit « Ah, mais ça, c'est anticonstitutionnel. »
On n'a pas le droit d'enlever des choses qui ont été votées. Voilà. C'est assez normal.
Donc, d'accord, ils remettent l'article premier. Et le lendemain, ils viennent et ils disent « Bon, alors, on va terminer de voter l'article premier, mais ça ne sert à rien, finalement, parce que de toute façon, juste après, on va faire voter l'article 1 bis, en fait, qui dégage l'article premier. » Et donc, l'opposition a quitté l'hémicycle et n'a pas voulu participer à ce qu'ils ont appelé une mascarade. Et c'était exactement ça, parce que c'est pas acceptable. Le Parlement vote, des amendements, il a le droit à l'amende, etc. On peut pas, parce que sinon, après, chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, on fait ça. Chaque fois que le Parlement décide quelque chose qui ne plaît pas au gouvernement, bah, on crée un article juste après qui annule le précédent, et puis on s'amuse à les enlever systématiquement. Mmh. Et donc, là, pendant tout le débat, c'est que effectivement, l'UMP a été remis dans le rang sur la licence globale, mais à côté, il y a tous les problèmes des DRM pour le logiciel libre, pour le grand public, pour les bibliothèques, pour le domaine public. Tous ces points-là, par contre, il y a des députés qui ne lâchent pas. Donc il faut à tout prix qu'ils cherchent un compromis là-dessus, et surtout que ces députés-là sont bien évidemment appuyés par l'opposition, qui est totalement contre les DRM, la protection juridique telle qu'elle est créée par la loi. Quoi.
Mmh. Parce que l'article premier, en fait, ça vise à que les téléchargements, et après on rentre réellement dans le cœur du texte. En fait, il y a une espèce de maquillage du texte où on dit bon bah ça concerne les téléchargements, et puis le reste c'est très technique, n'essayez de pas comprendre, c'est pas la peine. Ça concerne des trucs DRM, on sait pas trop ce que c'est, on va tous voter comme ça sagement. Mmh. Et en fait, bah, les gens ont été alertés sur les téléchargements et sur les DRM aussi, et donc les députés, bah, forcément, se sont vraiment intéressés et continuent leur opposition face au ministre.
Alors on peut peut-être aborder justement plus dans le détail qu'est-ce que c'est que ces DRM, qu'est-ce qu'il y a dans la loi, qu'est-ce que concrètement ça change pour la musique, pour les films, mais également pour le logiciel libre. Vous en avez parlé tous les deux tout à l'heure. Donc, voilà, en gros, dans le monde merveilleux de Renaud de Vabre et de ses amis, à quoi ça ressemble ?
Le monde merveilleux des DRM, c'est que sur chaque œuvre, en fait, il y a une protection. Donc, en gros, elle est illisible, sauf quand on a l'outil qui permet de la lire. Et l'outil, donc, l'outil, lui, vise à empêcher qu'on puisse faire des copies. Donc, la loi protège ces dispositifs anti-copie, et toute personne qui tente de faire une copie quand même, même pour à des fins légales, pour le copier verbal de MP3, bah elle est punie. Alors elle est punie de sanctions pénales. Donc en l'occurrence, le ministre, quand il est revenu en mars, vu que son texte était carrément trop répressif, 3 ans de prison, maintenant il avait prévu 3 750 € d'amende pour qui neutralise un dispositif technique qui empêche, contrôle la copie, compte le nombre de lectures. C'est aussi la durée de vie du fichier qui peut être limitée. Donc on télécharge un film et on peut le regarder que pendant 24 heures. Le problème, c'est que ça, pour se mettre en œuvre techniquement, ça ne peut vraiment fonctionner qu'avec que des logiciels propriétaires. Des mécanismes de traçage et de suivi du nombre de copies de lecture, ça pose des problèmes en matière de vie privée. Donc tout ça, c'est des points qui ont été soulevés. Et en plus, il y a des risques, vu que c'est très proche, une mesure technique, un DRM, c'est très proche d'un logiciel espion. Et on l'a bien vu avec l'affaire dite du rootkit Sony. Sony avait mis sur ses CD un logiciel avec, il y avait une piste où il y avait un logiciel. Et quand on mettait le CD dans un ordinateur, le logiciel s'installait sans demander l'avis de l'utilisateur, et il commençait à renvoyer des données à Sony sur ce que faisait l'utilisateur, sans rien demander à personne. Le problème, c'est qu'il y avait des failles de sécurité dans ce logiciel espion, et que, ben, déjà, donc, le fait de traiter des données personnelles sans autorisation, c'est illégal. Et en plus, il y a des pirates, des vrais, ce coup-là, qui ont exploité les failles de ce logiciel espion et qui ont pris la main sur les machines d'énormément de personnes. Et donc, il y a eu un vrai problème de sécurité informatique. Donc, ça, c'est les DRM. Et quand on protège juridiquement tout ça et qu'on dit qu'il est interdit de contourner, il est interdit même d'en parler, parce qu'au départ, c'était quand même ça le texte. C'était faire connaître directement ou indirectement une information permettant de contourner. C'était puni de 3 ans de prison, 300 000 € d'amende. Ben, on crée une sorte de société de l'obscurantisme où il y a quelques multinationales qui ont tout pouvoir sur les machines des utilisateurs et peuvent installer ce qu'ils veulent, peuvent contrôler ce qu'elles veulent, décider, parce qu'en fait la technique décide à la place du juge ce qui est légal ou pas. C'est-à-dire que la mesure technique, le dispositif, décide que bah, copier vers tel baladeur, c'est pas possible. Vers celui-là, oui, vers celui-là, non. C'est complètement arbitraire. Donc c'était le monde merveilleux des DRM, c'est ça, c'est l'obscurantisme et le côté arbitraire. Et le problème pour les logiciels libres, c'est que les logiciels libres, le but, c'est de rendre le contrôle de la machine à l'utilisateur. Tout le monde ne s'en sert pas parce qu'on n'a pas forcément les compétences techniques, mais c'est le but du logiciel libre, c'est aussi ça. Et c'est d'ailleurs écrit directement dans le préambule, par exemple, d'une des licences les plus utilisées, qui est la GPL, en logiciel libre. Il y a écrit que le but, c'est de rendre aussi c'est le contrôle de sa machine à l'utilisateur. Donc c'est antinomique. On distribue le code source, on peut le modifier, donc on peut passer outre la mesure technique. Donc c'est complet, ça va complètement à l'opposé de la logique de contrôle. Donc c'est... Il y a un conflit évident de modèle de développement social et économique, parce que c'est ça. Et donc ce conflit, bah, il est apparu au grand jour et il fallait essayer de trouver une solution. Donc c'est ce qu'ils ont essayé de faire, sans y arriver d'ailleurs.
D'accord. Par rapport au statut de la musique, Tanguy peut peut-être nous en parler un peu plus. Moi, j'ai vu des choses sur, sur le fait que la musique, alors je me trompe peut-être, hein, mais devenait de... Enfin, la musique qu'on téléchargeait avec les DRM, etc., c'était des licences d'utilisation, c'est-à-dire qu'on n'était plus propriétaire de la musique qu'on avait achetée.
Oui, tout à fait, puisque en fait, on limite tous les usages. Donc typiquement, lorsqu'on télécharge sur certains sites, on va avoir le droit de le copier 5 fois vers son baladeur, ou 7 fois, ou ça dépend de ce qui passe dans la tête du confectionneur de DRM. Donc c'est même plus l'artiste qui va décider. A priori, on pourrait se dire, bon, bah, voilà, l'artiste est puissant sur son œuvre, et il peut dire c'est tel numéro, mais non, c'est quelqu'un dans un bureau d'une multinationale qui définit un nombre de copies. Et c'est-à-dire qu'on va acheter, on a l'impression d'acheter de la musique, et puis bah, il se trouve que voilà, on change d'ordinateur, 1, 2, 3, 4, on le télécharge, on le transfère sur son baladeur pendant 2, 3 fois, et au bout d'un moment, on ne peut plus rien écouter.
Donc c'est la musique...
Donc c'est plus l'achat de musique, c'est la location.
C'est la musique Kleenex. Ouais.
Voilà. C'est aussi un peu ce que ça veut dire socialement pour dans une société, c'est-à-dire que la musique, bah, on l'oublie. Et même les bibliothèques veulent archiver ça, bah, elles peuvent pas, puisqu'on peut le copier que 4, 6, 10 fois. Mmh. Ou on peut l'écouter seulement sur tel baladeur. Donc du coup, on va cloisonner. Il va y avoir des citoyens qui vont avoir le droit, parce qu'ils ont un baladeur avec une pomme dessus, ils vont pouvoir écouter de la musique. Et ceux qui n'ont pas ce baladeur-là, parce qu'ils ne le trouvent pas beau ou parce que c'est trop cher, eh ben, ils ne vont pas pouvoir écouter la musique.
Donc, parce qu'on a ce gros souci d'interopérabilité, qui est l'idée que quand on va acheter... par exemple, sa musique côté pomme, par exemple, on pourra la lire qu'avec un lecteur pomme, mais pas avec le lecteur poire, par exemple. Et donc, auquel cas, on est obligé de choisir un peu son camp. Ou si on veut écouter n'importe quelle musique, il nous faut plusieurs baladeurs.
Voilà.
Plusieurs,
on va choisir son artiste aussi en fonction de ses goûts, de ses goûts de légumes ou de fruits.
Mais il y a quelque chose qu'il faut... Il y a toujours eu des mesures techniques. Il y a toujours des dispositifs comme ça qui visaient à contrôler sur les cassettes VHS, etc. Là, le problème qu'on a, c'est que, par exemple, Apple veut pas qu'on lise les morceaux téléchargés sur un autre baladeur que le sien. Bon, très bien. Avant, on fait sauter la protection, et je vais copier les fichiers sur mon autre baladeur, c'est totalement légal, puisque j'ai acheté les fichiers, je les copie, il n'y avait pas de problème. Je veux développer un lecteur pour lire les fichiers téléchargés, il y a des moyens techniques et d'ingénierie qui permettent de développer des lecteurs sans forcément demander l'autorisation à Apple pour lire les fichiers téléchargés. Là, on crée une loi qui interdit de faire ça. Donc, on permet la mise en captivité du consommateur. Et ça n'a rien à voir avec les auteurs, les artistes ou les producteurs. Ça ne sert que les gens du logiciel et les gens qui font des périphériques électroniques. Voilà. Et l'utilisateur, l'interopérabilité... Personne demande à ce que du jour au lendemain on puisse lire tout sur tout. Par contre, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir, s'il y a un truc qu'empêche, quand même pouvoir faire sauter le dispositif pour faire quelque chose qui est tout à fait normal, de lire un baladeur, de lire de la musique avec un baladeur MP3 qui n'est pas la même marque que où j'ai acheté ma musique. Parce que si seul Philips avait pu faire des lecteurs de CD, la concurrence aurait été un peu limitée, et le consommateur aurait pas eu beaucoup de choix de lecteurs et peut-être l'innovation serait moins développée. Il y avait aussi tous ces aspects économiques purs qui étaient sous-jacents à cette loi-là. C'est vrai que c'était vraiment une loi qui avait des portées sociales et économiques très importantes. Et les débats ont permis de s'en rendre compte, donc ça c'est déjà pas mal.
D'accord.
On a pu voir la petite lorgnette à travers les débats, parce que s'il y avait eu un vrai débat parlementaire, peut-être que là il y aurait eu des avancées, de nouvelles idées, mais l'urgence faisait que...
Il y a eu un débat parlementaire, mais après, il y a le gouvernement qui est passé en force et qui n'a rien écouté.
Oui,
c'est vrai. Quand on lit les débats, moi, je travaille actuellement dessus pour faire une synthèse a posteriori, on voit, tout a été dit. Tous les problèmes qui sont posés ont été posés. Après, le gouvernement n'a pas voulu en tenir compte.
Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que bah voilà, nous, en tant que quand on achète de la musique, on a le droit de copier la musique à condition que ça reste dans la sphère privée. Donc, on a cette loi-là qui date des années 80, et c'était assez révolutionnaire, et puis sans doute que la culture française a gagné grâce à cette loi, il n'y a pas de doute. Et de l'autre côté, eh ben, on a une loi qui nous dit « Ah non, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus faire ça ». Et on a la cohabitation de deux lois, puisqu'on protège des mesures techniques qui nous empêchent de réaliser des choses qu'une autre loi nous autorise.
C'est l'incohérence aussi de la loi, c'est-à-dire que donc le droit de copier pour un usage privé, ça date de 1957. Et en 1985, on a créé la redevance pour copie privée, qui fait que chaque fois qu'on achète un support vierge ou un périphérique électronique avec un disque dur à l'intérieur, il y a une partie du prix, comme je disais tout à l'heure, qui va aux sociétés de gestion collective qui redistribuent. Les mesures techniques empêchent ça. C'est en conflit direct. C'est un peu comme logiciel libre et contrôle, c'est quelque chose qui est en conflit. Là, on a un conflit, c'est-à-dire qu'on paye pour faire des copies sur tous les supports soumis à la redevance, c'est quand même le minimum. Et en fait, on a des dispositifs qui empêchent de le faire. Donc c'est totalement en conflit. La Commission européenne, d'ailleurs, en est consciente. Elle a voulu supprimer, elle, les redevances. Mais évidemment, les sociétés de gestion collective ont hurlé. Et aussi les associations de consommateurs, parce qu'on sait très bien que si on supprime la redevance, le but, c'est de faire tomber totalement le droit à la copie privée libre. Parce qu'il faut distinguer la copie contrôlée, les 4-5 copies qu'autorise le baladeur, mais qu'autorise le DRM, mais uniquement vers tel baladeur, uniquement dans telles conditions, de la copie privée, qui, elle, n'était limitée ni par le moyen qu'on utilise pour copier, ni par le support de destination, par le format dans lequel on pouvait. C'est-à-dire que le consommateur était libre de choisir sur quoi, comment il faisait sa copie privée. Là, on veut lui imposer, on veut le contrôler, et on veut lui imposer des outils, etc. Donc ça, c'est les effets directs de la loi. Et le gouvernement français a pas résolu le problème. Il a fait comme tous les autres gouvernements européens, c'est-à-dire qu'il a laissé les deux trucs en même temps, en disant le consommateur, lui, bah tant pis pour lui, et puis moi je suis satisfait, mes amis, les auteurs, les artistes, etc. Et pendant la campagne, j'espère qu'ils vont tous...
Parce que qui est le plus satisfait quand même là-dedans, c'est les industriels.
Non, conserver la redevance sur la copie privée, ça c'est les sociétés de gestion collective, les artistes, etc., qui sont très heureux. Donc, parce que les DRM, ça fonctionne pas pour lutter contre la copie. Ça, par contre, c'est un fait avéré.
Et ça fait partie aussi du grand mensonge de tous ces débats-là, c'est que un DRM, ça protège pas le droit d'auteur, puisque à un moment où une chanson sort en tout DRM, un CD d'EMI, Norah Jones, qui est sorti que en DRM sur Internet ou dans la vraie vie, parce que quand on achète un CD de Norah Jones à la Fnac, il y a un DRM dessus et en théorie, on peut pas le copier. Allez sur n'importe quel réseau pair à pair, peer-to-peer, et ben vous allez trouver du Norah Jones. Alors, si le respect du droit d'auteur était garanti par le DRM, est-ce qu'on trouverait le CD, est-ce qu'on trouverait les chansons de Norah Jones sur un réseau peer-to-peer?
Oui. Il y a l'exemple, je crois que c'était un journaliste qui avait joué le jeu, acheté de la musique DRMisée sur Internet, et le jour où il a changé l'ordinateur, il s'en
est rendu. Ça marchait plus. Et là, il y a la semaine dernière un autre journaliste qui, pareil, s'est dit bon ben voilà. Mais les gens que j'interviewe me disent que c'est révolutionnaire, que ça aide le système, je vais participer. Il avait deux baladeurs, et puis il a un Windows à son boulot et un Windows chez lui. Et il a pris un abonnement à 10 €, il me semble, sur je sais plus quel site, qui permet de télécharger de la musique sans compter, en gros. Et un matin, il arrive, il essaye de mettre sa musique qu'il avait téléchargée sur son baladeur, et tout d'un coup, crash, Windows crash. Et donc tout paniqué, il regarde son baladeur. Le baladeur avait crashé aussi. Enfin, Windows avait fait crasher le baladeur. Donc le baladeur est inutilisable. Il a un abonnement dont il ne peut pas se défaire de payer les 10 €. Mais il n'a plus le matériel pour le lire, puisque le Windows qui avait l'abonnement est crashé. S'il réinstalle, il va perdre son abonnement. Et donc résultat, il ne peut plus écouter sa musique. Il n'a plus un système d'exploitation qui fonctionne. Mais il paye toujours les 10 € au site de téléchargement. Donc ça, c'est grâce au DRM.
C'est un merveilleux modèle économique.
Voilà.
Et d'ailleurs, la FNAC et Virgin viennent d'annoncer... Donc, la loi est passée. Donc, il y a eu un lobbying.
On va peut-être reprendre justement la chronologie de la loi, comme ça. On va pas éviter trop s'embrouiller. Second débat à l'Assemblée. On évacue l'essence globale...
Brutalement,
à la masse. Et donc, il y a quand même certains principes qui sont défendus après le vote à l'Assemblée.
Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin de l'Assemblée, la licence globale est totalement oubliée. Par contre, sur l'interopérabilité et le fait que les DRM, c'est quand même pas une panacée pour le consommateur, c'est un danger parce que ça fait cracher à peu près tout. Ça nous espionne et on peut pas faire, on respecte pas la loi sur la copie privée. Donc, les députés disent, nous, par la loi, on va obliger l'interopérabilité.
En fait, ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'ils ont quand même eu... Donc, ils font sauter l'article 1er. Donc scandale, évidemment, l'opposition quitte la, il y a des articles le lendemain parce que ça s'est jamais vu, c'est vraiment du passage en force. Et ensuite, ils déroulent leur programme qui est de mettre des sanctions pénales pour le contournement, etc. Ils passent ce qu'on a appelé les amendements Vivendi, donc qui étaient des amendements qui ont été rédigés par les gens de Vivendi et qu'ils voulaient faire porter au ministre. Bon, ils n'ont pas réussi pour des raisons que je ne développerai pas ici parce qu'il y a eu des interventions pour faire en sorte que le ministre, s'il portait ça, il savait qu'il allait... Et ces amendements-là visaient à interdire les logiciels peer-to-peer où il n'y a pas de DRM dedans. Le but, c'était d'imposer les DRM aux logiciels de communication, d'échange,
qui permettent l'échange de... Peer-to-peer est même plus vague parce qu'il y avait une interprétation très très large où on disait tout échange sur Internet, si ça n'implémente pas les DRM, eh ben c'est illégal.
Voilà, donc les députés votent ces amendements Vivendi. Donc, en séance, d'ailleurs, Donnedieu de Vabre ensuite a appelé Donnedieu de Vabre de Vivendi parce qu'il était très clair qu'il soutenait... Alors, il faisait porter, parce qu'il y a tout ce jeu complètement absurde où le gouvernement fait porter par des parlementaires de la majorité certaines dispositions qu'il ne veut pas porter lui-même ou pour faire croire qu'il y a de l'initiative parlementaire. Mmh. Donc, bon, et tout ça passe. Et ça fait un tel scandale. Nous, on sort évidemment un communiqué monstrueux. Tout le monde commence à dire sur Internet, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement fous. Donc, à la fin du débat, à le dernier jour du débat de mars, à l'Assemblée, à 1h, je crois, du matin, il y a quelqu'un qui demande le revote de l'article qui transpose donc la directive européenne, qui protège les DRM, etc., et qui demande le revote, réécrire l'article et de le faire revoter. Et en fait, les députés se retrouvent à 7-8 dans une pièce et ils adoptent toute une série de dispositions qui étaient ce qu'elles étaient, mais qui avaient le mérite de poser un certain nombre de principes, comme quoi on peut pas interdire la publication d'un logiciel libre qui lit un DVD, c'était ça que ça voulait dire, qu'une mesure technique peut pas s'opposer à l'usage normal, etc., etc. Donc ils posent toute une série de principes, à la fin, un petit peu un salto arrière, un salto périlleux, hop, ils remettent des dispositions qui sont favorables au public, à la concurrence, etc. Et ça se termine là-dessus. Et le gouvernement, lui, c'était absolument pas ce qu'il voulait. Donc les députés, à un moment, on en eut marre aussi d'être traités comme même les gens de la majorité. Ceux de l'opposition, c'est tout à fait normal, mais ceux de la majorité aussi, il y en a qu'on en eut marre d'être traités comme ça. Et donc, ils se sont mis autour d'une table avec leurs collègues de l'opposition. Et comme a dit Patrick Bloch, qui est le député PS, on a fait un très bon travail. Et à 3h30 du matin, la session se termine et il n'y a quasiment plus de lobbyistes à l'Assemblée. Mais quelques jours plus tard, quand ils prennent la loi et qu'ils regardent ce que les députés ont fait, là, ils ont une belle surprise. Parce qu'effectivement, il y a un article qui est favorable au logiciel libre. Alors, il y a beaucoup de dispositions qui étaient inspirées d'amendements UCD Info qu'on avait rédigés et que les députés ont trouvé utile de reprendre pour justement... il n'y avait pas la licence globale, certes, mais le but du projet de loi, c'était les DRM. Donc, on va bien encadrer tout ça. Donc, ça, c'est sorti d'Assemblée. Et sorti d'Assemblée où le texte est dans l'ensemble très mauvais, mais il y a quelques... Les députés ont su se réunir à la fin, tout à la fin, pour essayer de rattraper un peu le coup.
D'accord. Et protéger du coup les consommateurs et les citoyens, parce que c'est aussi si jamais tout est DRMisé, si jamais on peut pas lire un journal sans avoir l'autorisation express d'une multinationale pour le lire, où est la démocratie? Et c'est un peu ça, la culture démocratique, c'est que on puisse le lire dans sa douche ou dans son lit ou n'importe où.
D'accord. Donc après ce vote à l'Assemblée, ça passe au Sénat.
Et là, le Sénat, les sénateurs, ils ne sont pas élus directement par des citoyens. Donc, c'est sûr qu'une parole citoyenne que nous, on défendait aussi bien à UCD Info qu'à Stop DRM, les sénateurs, ils sont un petit peu moins... ils sont moins sensibles à ça. Et donc, du coup, effectivement, durant le travail au Sénat, il y a eu des choses beaucoup moins favorables aux citoyens et aux consommateurs de biens culturels.
En fait, les lobbyistes, donc c'est très gros, c'est les gens de Microsoft, c'est les gens de Disney, de Lagardère, c'est Thomson, c'est France Télécom, c'était des entreprises comme ça qui étaient intéressées, c'est Warner, Universal, c'était des très grosses entreprises. Donc en décembre, première baffe, en mars, 3h30 du matin, deuxième baffe. Donc là, en arrivant au Sénat, ils ont pris les précautions pour que ça n'arrive pas. Et je pense que la meilleure démonstration de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait venir 14 personnes, une délégation de 14 personnes d'Apple, directement des États-Unis, qui est venue pour expliquer aux sénateurs qu'il fallait retirer tout ce que les députés avaient mis là à 3h30 du matin, parce que c'était scandaleux, etc. Et le secrétaire d'État au commerce américain a pris position ouvertement contre la loi française. Donc le secrétaire d'État au commerce américain. Nous, depuis le début, on disait, de toute façon, cette loi-là, elle est faite pour Microsoft, Apple et les quelques rares industriels de l'électronique. C'est eux principalement qui vont en bénéficier. Et c'est une loi qui nous vient directement des États-Unis, comme je l'ai expliqué au début de l'émission. Voilà. On nous dit, mais c'est n'importe quoi, etc. Là, on a eu l'exemple concret. Donc, au moins, ça a montré qu'on avait raison. Donc, les sénateurs, ils ont été pris par tous les lobbies d'un coup. Nous, on a été reçus 5 minutes, juste pour dire, on vous a reçus par les rapporteurs. Voilà, on n'a pas du tout écouté ce qu'on avait à dire. Et puis, dans les différents groupes parlementaires, tout était verrouillé, blindé. Et les sénateurs, c'est pareil, ils ont déroulé. Ils ont déroulé, ils ont adopté, ils ont retiré toutes les dispositions, les rares dispositions qui restaient. Et le texte final qui est sorti, c'était absolument... C'est un texte qui est répressif, qui en plus est totalement illisible. Parce qu'ils travaillaient avec des amendements qu'ils n'écrivaient pas eux-mêmes, qui étaient écrits par les autres, les lobbyistes, etc. Et donc, ils se sont retrouvés dans une situation où le texte ne veut plus rien dire, personne ne le comprend, les juristes disent que c'est n'importe quoi, voilà.
D'accord. Et troisième round, en quelque sorte, c'est le passage au Conseil constitutionnel.
Voilà. Donc, on avait réussi à sauver le fait qu'on peut contourner une mesure technique, donc faire sauter un dispositif anticopie, à des fins d'interopérabilité, justement. Et ça a été le Sénat, le gouvernement et la majorité au Sénat voulaient retirer ça. Ça avait été mis par les députés. Et à une voix, ils n'ont pas réussi à le faire retirer. Donc, le texte est arrivé devant le Conseil constitutionnel avec au moins cette exception-là d'interopérabilité. Donc, pour que le public puisse transférer vers un baladeur MP3 un CD acheté dans le commerce sans problème et sans risquer une quelconque peine ou une amende. Et donc, le Conseil constitutionnel a supprimé ça, ce qui était la seule disposition favorable au public qui restait vraiment dans le texte, et a déclaré que ce qu'avait fait le gouvernement avec l'article 1er, l'aller-retour, etc., bon, c'était cavalier, mais bon, on allait laisser passer. À côté de ça, le gouvernement souhaitait que le téléchargement particulier soit pas plus puni de 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende, mais par des contraventions. Le Conseil constitutionnel a fait sauter au regard du principe de l'égalité des délits et des peines, qui veut que quand je fais une contrefaçon avec un magnétoscope ou avec Internet, c'est pareil, ça reste une contrefaçon. C'est une contrefaçon et c'est la même peine pour tout le monde, peu importe le moyen avec lequel je le fais. Et le Conseil constitutionnel a rendu le texte encore plus répressif qu'il ne l'était en sortie. C'était possible. Donc le Conseil constitutionnel l'a fait.
Donc aujourd'hui, de la loi qui est maintenant votée, quelqu'un qui télécharge un morceau sur un truc de peer-to-peer,
sur le peer-to-peer, en fait, il y a assez peu de choses, enfin, les vrais, il y a assez peu de changements.
Que le Conseil constitutionnel a censuré, justement.
Donc, en fait, grosso modo, on en court autant que si, avant la loi. C'est juste que le ministre a demandé la clémence au juge. Donc, ça...
On encourt jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende quand on met de la musique en ligne. Et après, quand on ne fait que la télécharger, il y a toujours ce débat qui dure depuis des années de savoir si c'est illégal ou pas, qu'on fait juste que télécharger. Donc le gouvernement a la clémence, c'est une circulaire qui vient de sortir et qu'on va publier demain. Et la circulaire en question, elle dit quoi? Elle dit que le téléchargement n'est pas légal. Donc, et il y a toute la politique de répression pénale du gouvernement qui est expliquée dans cette directive où ils disent comment faut interpréter la loi. Donc, on risque quand même toujours potentiellement 3 ans de prison et 300 000 euros, suffit que le juge applique, il est pas obligé.
Mais c'est pas la DAFCI qui a modifié cet état de fait. Alors que là, la DAFCI, elle rend aussi assez dangereux le fait qu'on télécharge de la musique DRMisée sur Virgin Mega ou sur la Fnac Music.com, puisque lorsqu'on télécharge la musique en DRM et qu'on essaye d'enlever le DRM, puisque vu que le DRM, il faut, si on a un DRM, il faut le bon baladeur. Et puis, on sait que maintenant, même si on l'a acheté, c'est la location. Du coup, le consommateur, ce qu'il veut, c'est enlever ce DRM. Et c'est assez logique, de la même manière que quand on achète un CD, on le convertit en MP3 pour le mettre sur son baladeur. Ça ne veut pas dire qu'on le met sur les réseaux peer-to-peer. Et donc ça, acheter de la musique sur les réseaux que le ministre appelle légaux ou commerciaux qu'on connaît, ça devient dangereux aussi. On l'a vu à travers l'expérience du journaliste, c'est dangereux pour son ordinateur, c'est dangereux pour son baladeur. C'est dangereux aussi parce qu'on encourt une amende de une amende de 750 euros.
Si on fait sauter un DRM avec ses propres moyens, c'est 3750 euros d'amende. Et si on fait sauter un DRM avec des moyens qui ont été développés par d'autres qui sont dédiés à ça, c'est une contravention de 750 euros. Il y a le décret qui est récemment sorti et qui d'ailleurs, le décret, le gouvernement allait encore plus loin. C'est-à-dire qu'à chaque étape, en décembre, on avait réussi à faire revenir en arrière. Mais maintenant, ils sont en train de repartir vers où ils voulaient aller. Donc le décret va encore plus loin que la loi. Donc le fait de contourner un DRM pour le lire avec un DVD, pour le lire avec un logiciel libre, c'est 750 euros d'amende. Et le fait de mettre un bout de scotch sur un CD pour pas lire la première piste de façon à pouvoir copier les pistes qui suivent, c'est 3750 euros. Donc voilà.
Ça fait cher le bout de scotch.
Voilà,
ça fait cher le bout de scotch.
Et le fait d'expliquer à quelqu'un comment contourner sur un forum, etc., ou lui dire, tu vois, avec ça, tu peux utiliser, on risque jusqu'à 6 mois et 30 000 ou
75 000.
Enfin, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Voilà. Et les gens, par exemple, du logiciel libre qui ne peuvent faire que comme ça. Donc de distribuer des...
Puisque leur recette est publiée sur n'importe, et les
fournisseurs de DRM leur donnent jamais les informations permettant de faire de l'interopérabilité. Donc ils vont les chercher eux-mêmes. Et quand ils diffusent, eux, ils risquent ces 6 mois-là, etc. Alors si c'est une personne morale, par exemple une association, c'est doublé. Parce qu'il y a tout un mécanisme, il faut quand même le dire aussi aux auditeurs, c'est que depuis 5 ans, on a mis en place tout un mécanisme qui fait qu'on annonce des peines sur un délit. Mais en fait, il y a des séries génériques sur le côté qui font que les peines sont systématiquement doublées si on est une personne morale. Dès qu'on l'a fait à plusieurs, c'est étendu, etc. Donc ça, c'est les peines théoriques. Ça peut aller beaucoup plus loin.
D'accord. Le tableau est assez noir, donc on va mettre un morceau un petit peu rigolo, mais avec du second degré quand même.
Bonjour. Les journaux internationaux, les serviettes chaudes, les chariots.
Donc Symbiose sur Radio Libertaire 89.4. On a parlé aujourd'hui de la Joie d'Afcy. On va finir sur le présent, sur voir qu'est-ce qu'on, enfin où on en est, et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc nous sommes avec Christophe Espern et Tanguy Morlier. Il y a une chose qui me semble très intéressante pour revenir à la licence globale dont on a parlé tout à l'heure, qui avait à l'époque été attaquée comme quoi c'était n'importe quoi économiquement. Impossible, etc. Tout à l'heure, Tanguy, tu as parlé de sites qui proposent de la musique sur abonnement. Donc, en gros, on paye un forfait, donc la musique au forfait. Mm-hmm. Je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, on a l'impression qu'on a fait un peu une boucle. C'est-à-dire que d'un système avec des DRM où on devait payer systématiquement, où tout était limité dans le temps, on arrive finalement à quelque chose qui, dans le principe, ressemble un petit peu à la licence globale, qui est de dire on a des trucs au forfait, ce genre de choses, sauf que ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont la main sur le robinet. Donc, je trouvais ça assez symptomatique.
Oui, c'est ce qu'on voit. Et même là, cette semaine, on a vu la FNAC ou Virgin ont décidé de vendre du MP3. Si on va sur le site de la FNAC, si on a la chance d'avoir le bon système d'exploitation et le bon navigateur, on va pouvoir télécharger de la musique en DRM. Mais maintenant aussi, ils ont mis quelques morceaux en MP3. Donc, c'est
350 000 morceaux quand même. C'est pas
non,
énorme.
C'est 150 000 pour la FNAC sur 2 millions de titres proposés. Donc,
oui. Mais c'est, enfin, ça commence à être un.
Ça commence à être un engouement économique, effectivement, et des gros acteurs économiques se rendent compte que, bah oui, le DRM, ça fait chez les consommateurs, ça marche pas, c'est dangereux, et ils commencent à proposer du MP3.
D'accord, parce que, comme on a brossé finalement à la fin de cette procédure, de la loi, on se rend compte qu'on arrive à quelque chose d'assez sombre, mais au final, c'est inapplicable, c'est ça ?
Voilà, c'est totalement inapplicable, et puis les grands acteurs économiques se disent, bah, en fait. Si on veut essayer, là, l'objectif de la FNAC ou de Virgin, c'est qu'ils s'aperçoivent que les consommateurs sont mécontents. Puis ils s'aperçoivent aussi qu'il y a énormément de gens qui ont le baladeur Apple. Et là, pour rentrer dans ce marché-là, eh ben, on ne peut pas puisque tout est DRMisé. Et la solution, bah, c'est de vendre un format qui soit libre, enfin qui soit ouvert. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont choisi aussi le MP3 pour pouvoir envahir ce nouveau marché puisque le DRM, il est là pour cloisonner les marchés. On a un DRM pour faire de la location, on a un DRM pour les baladeurs Windows, on a un DRM pour les baladeurs Apple. Et puis, bah, si on veut essayer de faire des ponts entre ces différents marchés, on est obligé de choisir des formats ouverts.
D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme action en cours actuellement ? Qu'est-ce que vous faites, vos associations respectives ou...
Alors, nous, à Stop DRM, on a décidé d'utiliser les mêmes armes que le ministre. Donc, il nous a imposé une loi et nous, on a décidé de s'affronter à cette loi-là. Donc, on est allé par deux fois se dénoncer pour des délits spécifiquement définis par la DAFCI. Donc, on est allé la semaine dernière se dénoncer pour avoir converti un CD DRMisé. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Edith Piaf, parce que c'est bien connu, c'est une jeune artiste, il faut l'aider. Donc, il y a une protection anti-copie et on l'a converti dans un format ouvert. Une autre personne a acheté un DVD et ne pouvait pas le lire sur son lecteur vidéo portable, donc il l'a converti de la même manière. Et un autre a acheté un film sur Internet, donc il a téléchargé ce film-là. Et c'est pareil, il ne pouvait pas le lire sur son baladeur vidéo, donc il l'a converti. Et donc tout ça, ben, ça vaut au moins 750 euros d'amende. En tout cas, c'est ce que dit le texte. Et donc nous, on veut en être sûr, et on s'est dénoncé pour ça, et on attend la réponse de la justice. On avait fait ça avant sur d'autres peines, où on avait modifié un code source, pour des DVD, d'autres avaient téléchargé de la musique et converti en publiant la recette sur Internet. Donc on met à l'épreuve cette loi dont tout le monde dit qu'elle est inapplicable. Bah, nous, on a décidé d'essayer de le démontrer par l'exemple. Et donc du coup, on demande à la justice de plancher sur ce cas-là. Donc on s'est dénoncé dans un commissariat, on a été reçu par une brigade spécialisée sur l'informatique et l'Internet. Et puis, on sait que là, il y a des magistrats qui sont en train de plancher sur nos premiers délits. Et puis, les deuxièmes, c'est la même chose, c'est dans les tuyaux. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on veut démontrer par l'exemple que cette loi, elle est inapplicable. Ou si elle est inapplicable, elle est de toute façon injuste. Puisqu'on est des consommateurs, on a acheté sur des sites de téléchargement, on a acheté à la FNAC, on a acheté dans les grands supermarchés des œuvres culturelles et on veut participer à ce mouvement économique-là. Et on s'aperçoit qu'on nous met des bâtons dans les roues pour ça. Donc on risque 750 euros d'amende à chaque fois qu'on télécharge un titre parce qu'on veut le rendre compatible avec notre baladeur, Bah, peut-être qu'en fait, télécharger sur des réseaux peer-to-peer, c'est pas si dangereux que ça.
Et si un jour vous êtes condamné, donc vous serez des délinquants, et est-ce que vous...
Comme le ministre.
On sera peut-être amis avec le ministre, ouais. Plus amis avec le ministre, on vous écoutera peut-être plus.
Ou devenir ministre vous-même peut-être, voilà. Je sais pas. Et sinon, Christophe?
Nous, en fait, on a deux types d'actions en cours. On a une première action, donc moi maintenant je travaille pour l'April, donc c'est l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, qui est une association qui a beaucoup aidé l'initiative EUCD Info, qui a donné beaucoup de moyens, des locaux, les permanents de l'April ont travaillé avec nous sur ces questions-là. Donc moi, j'ai rejoint leur équipe et j'étais déjà membre de l'association avant. Donc on rédige des questions aux candidats et on va leur demander d'abroger toute une partie de la loi et puis de prendre certains engagements clairs sur ce qu'ils proposent, puisque maintenant on n'est plus, c'est la campagne, hein. Donc tout le monde sait que cette loi est inapplicable, scandaleuse, etc. Tout le monde, Nicolas Sarkozy lui-même, bien qu'il ait, ses équipes aient poussé les amendements Vivendi par exemple, a reconnu que c'était trop répressif, qu'il y aurait peut-être eu moyen de faire autre chose. Donc vaut mieux tard que jamais. Bon, il se trouve que c'est contextuel tout ça, hein. Donc nous on veut des engagements clairs, précis, comme ça si c'est pas fait après, s'il y a une élection et que l'un, l'autre est élu et qu'il ne le fait pas, on pourra le pointer du doigt. Donc ça c'est le premier type d'action. Donc on leur envoie les questionnaires, tout ça dans les 15 jours. Il y a une table ronde politique avec des représentants des partis où on va essayer de leur faire prendre position là-dessus. Et à côté de ça, on est en train d'étudier attentivement le décret qui est sorti, parce qu'il nous semble que ce décret, comme je l'ai dit, va plus loin que la loi, ce qui ne me semble pas forcément être tout à fait légal. Le gouvernement aurait peut-être été trop loin, et peut-être que ce décret n'est pas... Alors je suis désolé pour mes amis de Stop DRM, mais peut-être que finalement, le décret en question qui les vise effectivement sur les actes qu'ils ont faits ne sera peut-être pas... va peut-être sauter. Donc on essaye de travailler aussi sur cette question-là, comme la loi appelle la loi, et le droit appelle le droit. Donc on travaille de cette façon-là, voilà.
Bien, merci. L'émission s'achève. La prochaine, c'est le 4 février. On reparlera au moins rapidement l'actualité de cette question qui est très importante. Merci et à bientôt.